Alors, nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end. Merci d'être là en notre compagnie. Avant de parler à Ray Lalonde dans quelques instants, puisqu'on va parler de Formule 1, je voulais vous donner les résultats des qualifications de ce matin. Donc, Valtteri Bottas obtient la pole position et partira premier demain matin au Portugal. À ses côtés, son coéquipier de Mercedes, Lewis Hamilton. Ensuite de ça, sur la deuxième ligne, Max Verstappen et Sergio Perez de Red Bull. Malheureusement, pour les Canadiens, ça s'est pas trop bien passé aujourd'hui. Lance Stroll partira 17 et Nicolas Latifi, 18e. Mais c'est maintenant le moment de parler sport business avec Ray Lalonde. Salut Ray.
Salut Jérémy.
Bon, justement, je donnais les résultats de Formule 1 et il faut absolument qu'on se parle de F1 étant donné que, écoutez, dans les dernières semaines, il y a beaucoup été question de la course à Montréal qui malheureusement sera encore une fois annulée cette année. Mais une nouvelle étonnante, épatante qui est tombée hier, Bell qui met la main sur Octane Management qui s'occupait de la gestion justement de l'organisation du Grand Prix de Montréal et c'est Bell qui devient en fait le promoteur de l'événement. Quelle a été ta première réaction et tes premières réflexions par rapport à cette transaction?
Ben, j'ai réagi de façon positive parce que on aime le Grand Prix à Montréal. C'est un événement prestigieux sur la scène internationale. Ça donne beaucoup de rayonnement à Montréal comme ville, comme métropole. C'est le seul Grand Prix de F1 au Canada et c'est nous qui l'avons. Et puis, il y en a juste un autre pour le moment là, à Austin, au Texas, en Amérique du Nord. Il va en avoir sûrement un autre à Miami bientôt.
Oui.
Ça demeure quelque chose qui est assez rare. Et puis, Montréal, c'est un Grand Prix qui est apprécié. C'est une belle piste. C'est un beau climat. Il y a un bon suivi, un bon soutien des partisans, des consommateurs. Puis, c'est une ville que les étrangers, les visiteurs aiment venir à Montréal pour ce week-end-là. Fait qu'il y a plein de choses positives autour de ça. Bon, quand j'entends Octane Management qui décide de vendre un peu son droit de promoteur, Jérémy. C'est normal un peu. Les petites entreprises ont beaucoup souffert durant la pandémie.
C'est sûr.
C'est difficile d'avoir la liquidité pour poursuivre quand ça fait 2 ans que t'es annulé. Puis tu sais que l'événement, c'est assez particulier. C'est un événement de 3 jours à tous les 365 jours.
Mm-hmm.
Alors, c'est pas comme si t'as 3 autres, 4 autres, 5 autres courses dans l'année puis tu partages ton temps et ton énergie comme ressource. Fait que tu sais, il y a beaucoup de, bon, je dirais pas de la frustration, mais il y a beaucoup d'impatience au niveau de cette organisation-là qui attendait puis qui, là, à cause de la santé publique, ne peut pas faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire organiser un événement majeur de course de Formule 1. Alors, je suis pas étonné que, à un moment donné, c'est le temps de regarder d'autres opportunités puis d'autres façons de bien gérer. Et Bell a sauté sur l'occasion. Bell domine le marché québécois. Jusqu'à un point que c'est quasiment devenu un monopole.
Mm-hmm.
Tu sais, ils ont les Canadiens, bien sûr, comme partenaires. Ils sont pas majoritaires, mais ils ont une importante contribution avec les Canadiens à titre d'investisseur et aussi à titre de commanditaire principal, en commençant par le Centre Bell, la Place Bell à Laval, le complexe sportif Bell à Brossard. Bon, avec ça vient Evenco, puis tout ce qui est autour de ça, mais aussi, avec ça vient aussi Spectra, puis Juste pour rire, puis... Tu sais, Bell a les mains dans plein de choses.
Ouais.
Dans un marché qui est... Bon, modeste au Québec, le Québec seulement, là, avec nos frontières francophones, ça fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de produits sportifs majeurs. On a les Canadiens, puis après ça, un deuxième niveau, le CF Montréal puis les Alouettes.
Ouais.
Une course comme la F1, c'est important. Rogers et la Banque nationale détiennent le tournoi de tennis. Ça, c'est une autre propriété importante au Québec en termes d'attrait puis de rayonnement mondial. Alors là-dessus, moi, je trouve que faut toujours regarder, encore une fois, dans l'univers de la course automobile, on en parle souvent depuis quelques semaines pour toutes les raisons qu'on connaît, y compris le début de saison. Est-ce que Montréal a plus besoin de la F1 que la F1 a besoin de Montréal?
Moi, je pense que Montréal a plus besoin de la F1.
Ouais, ben moi, je veux te dire que je pense l'inverse. Je pense que la F1 a besoin de cette course-là au Canada, ce pied à terre-là en Amérique du Nord. S'il y a une chose que la F1 doit améliorer, c'est sa mise en marché de ce côté de l'Atlantique. Parce que, Jérémy, c'est un marché gigantesque, surtout les États-Unis, bien sûr, qui n'est pas conquis par la F1 et qui demeure. Ils n'ont toujours pas de pilote américain. Bon, il y a une écurie qui est américaine. Ça a une notoriété relativement modeste vis-à-vis le grand public américain.
C'est sûr.
C'est pas juste à cause de la popularité du NASCAR puis de la Indy Racing. Le NASCAR est peut-être dans les moments les plus difficiles en termes de popularité. Alors, c'est une occasion de le faire. Fait que moi, je vois Montréal comme très stratégique, comme emplacement. Mais... Donc, je voyais jamais Montréal disparaître du circuit ou du calendrier. Et c'est pour ça que je trouve, encore une fois, que là, quand on pige du côté des paliers gouvernementaux pour financer une opération comme ça qui vient puis qui quitte trois jours après puis qui revient une année plus tard et ainsi de suite, je trouve que l'argent est cher, l'argent exigé. Puis je déplore que la F1 torde des bras aux villes à travers le monde avec des tarifs différents de ville en ville pour leur charger, pour accueillir un événement qui, en somme toute, c'est sûr que c'est majeur, Jérémy, mais il n'y a pas de leg là, après. Là, l'infrastructure, c'est ici que ça a été payé, les paddocks, la rénovation, la piste. C'est toujours ici. Ça fait pas partie de l'argent que le gouvernement paye à la F1. Tout ça pour dire que c'est un gros dossier. Faut réfléchir attentivement parce que le calcul que j'ai fait rapidement, en 17 ans, les gouvernements, Montréal, Québec et Ottawa, auront fourni 336 millions de dollars à la F1.
Ben, en tout cas, c'est la question que je me pose, c'est s'il y avait eu un Grand Prix cette année, est-ce que François Dumontier vend quand même? Je sais pas, est-ce qu'il y a un lien direct? Est-ce que François Dumontier a dit, garde, si ça marche pas cette année, c'est beau, la transaction peut avoir lieu, sinon, ben, je vais essayer de continuer par moi-même.
C'est très juste comme question, puis c'est seul lui qui peut répondre à ça, à savoir comment il voyait sa business, son entreprise, le potentiel de continuité.
Parce qu'il l'a dit, ils ont fait des coupures importantes, ils ont dû prendre des décisions difficiles.
Ben oui, comme toutes les organisations, Jérémy. Les organisations professionnelles de sport ne sont pas à l'abri. Ils ont plus de moyens et de liquidités généralement, puis ils ont plus de ressources. Mais il y en a coupé du retranché des gens chez les Canadiens aussi au Centre Bell. Ils ont mis à 80% d'une semaine de salaire pendant des mois. Alors, tu sais, tout le monde a souffert là-dedans, là, puis c'est correct, il a le droit de faire la transaction qu'il veut, puis Bell a décidé de se l'approprier parce que ils investissaient de toute façon avec RDS et TSN dans les droits, et puis c'est quelque chose qui est important pour l'été. Je comprends tout ça, là, c'est juste que des fois, il faut prendre un peu de recul, avoir un peu de contexte, réfléchir à savoir, OK, ça vaut quoi pour nous? C'était-tu impératif? L'an dernier, il n'a pas eu de Grand Prix, Jérémy. Est-ce que quelqu'un a souffert beaucoup de ça? Moi, je suis obligé de te dire non. Puis le point que je vais te dire pour te le prouver, c'est que c'est très difficile d'aller trouver plus que quelques jeunes sur une vingtaine, là, qui, jeunes voulant dire jeunes adultes de 25 ans et moins, là, qui affectionnent le Grand Prix.
Ah ben non, mais les gens vont pas au Grand Prix pour les courses. Les gens connaissent même pas les pilotes. Ils vont là pour le tourisme, faire la fête et tout ça. Moi, je me suis rendu compte de ça il y a bien des années. La grande majorité des gens qui se retrouvent sur Crescent ou sur Peel ou arrêtent.
C'est un événement.
Non, c'est ça. Demande-leur, là, c'est qui, je sais pas moi...
Nomme deux écuries, nomme deux pilotes, ils peuvent pas le faire.
Exactement.
On est d'accord avec ça, mais ça demeure une chose, c'est qu'à la fin, on paye une facture à une organisation.
Oui.
Qui vaut des milliards de dollars.
Mais
des milliards
si de on dollars. Veut avoir des événements dans notre ville, c'est ça, c'est faut payer. Faut parler un petit peu de hockey, Ray, parce que cette semaine, il y a eu une transaction importante. En fait, c'est NBC qui se retire de la diffusion des matchs de la Ligue nationale de hockey et c'est Turner qui prend possession de cela, en compagnie, bien sûr, aussi de ESPN. Mais si jamais j'aurais pensé, il y a 20 ans, que Turner, qui avait des stations plutôt dans la région d'Atlanta avec TBS, Peachtree et tout ça, qui deviendrait national à ce point-là pour aller chercher une propriété sportive aux mains de NBC. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que NBC perd sa place après toutes ces années-là du côté de la Ligue nationale?
Alors, NBC détient les droits de la Ligue nationale depuis 2004, puis l'entente actuelle qui se termine, c'est une entente de 10 ans à 200 millions par année.
Oui.
Mais là où ça a déclenché pour eux, c'est lorsque la Ligue nationale de hockey a réalisé, il y a probablement 2-3 ans, Jérémy, là, qu'il commençait à avoir de l'intérêt en voyant venir la fin de l'entente avec NBC de la part de d'autres réseaux.
Mm-hmm.
Fait que là, ils ont voulu, évidemment, exploiter cet intérêt-là et la monétiser. Et quand ESPN a signé pour 400 millions par année et prenait possession de beaucoup des propriétés importantes, tu sais, 4 finales de la Coupe Stanley dans les 7 prochaines années, un grand nombre de matchs et aussi du contenu presque sans limite sur ESPN+, c'est-à-dire le app spécialisé aux États-Unis. Là, NBC a réalisé, bon, ben nous, il nous reste quoi? On va prendre le package B, le plan B, c'est nous. Fait que là, ils ont décidé que ça devenait peut-être une réflexion différente. Parce que moi aussi, j'aurais cru qu'NBC allait renouveler, puis je l'ai dit souvent en ondes.
Mm-hmm.
Ça me semblait un mariage naturel parce qu'il y a eu une excellente relation et NBC a fait du très bon travail.
Mm-hmm.
Donc, pourquoi ils ont décidé de dire non cette fois-ci? C'est que ESPN a pris la grosse pointe du gâteau et NBC n'était pas intéressé à être le deuxième diffuseur partenaire. Mm-hmm. Et là, lorsqu'ils ont renouvelé puis ont doublé le prix pour la NFL, pour Sunday Night Football, et les droits de English Premier League, plus les Jeux olympiques qui s'en viennent, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'ils ont simplement dit « on n'a plus l'argent pour faire ça ». Et pendant ce temps-là, Turner a montré beaucoup d'intérêt. Puis Turner, Jérémy, c'est vrai, là, c'est dans la famille de, à l'époque, Ted Turner, qui avait fondé CNN à Atlanta. Puis là, tu as eu TBS qui diffusait tous les matchs des Braves d'Atlanta. Puis Turner, qui faisait beaucoup de films. Puis c'est pas un réseau traditionnel, c'est un réseau câblé, bien sûr.
Exact.
Mais ils sont dans le sport avec le baseball, avec March Madness et avec la NBA depuis des années. Et ils font du bon travail. Mm-hmm. Fait que finalement, moi, je les vois comme étant quelqu'un qui veut vraiment le produit Ligue nationale de hockey.
C'est un produit un peu aussi, un peu plus edgy. Hein,
absolument.
TBS, un petit peu plus edgy que NBC.
Oui, plus moderne, plus cool, qui va aller chercher une clientèle plus jeune, probablement. Exact. Les matchs, les émissions d'avant-match de studio qu'on appelle les studio shows là, avec la NBA, avec Charles Barkley, Shaquille O'Neal, Ernie Johnson et Kenny Smith. Jérémy, c'est du bonbon.
Ben oui.
Ça, c'est vraiment de la bonne qualité. Fait que, s'ils sont capables de créer un peu cet engouement-là pour le hockey. Parce qu'NBC, là, les shows qui entouraient le hockey, c'était relativement moche. Mm-hmm. Relativement traditionnel. C'était pas très cool. Moi, je pense que Turner va faire une grosse différence. Puis en plus, il paye 225 millions par année, Jérémy. C'est un coup de circuit, les buts remplis pour Batman cette année. Ouais. Il est allé chercher toutes sortes de nouvel argent au niveau télé, diffusion et médias. Plus l'argent des Kraken rentre cette semaine.
Exact.
Écoute, en pleine pandémie, il va chercher plus de presque 1,5 milliard de dollars. C'est un gros coup pour lui. Bravo à Batman.
Oui, exactement. Donc, le Kraken, officiellement, cette semaine, devient une franchise de la Ligue nationale de hockey.
Ça, ils peuvent transiger, transaction, signer des joueurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
J'ai très hâte, moi, là, qui est un fan de soccer, de voir ce que ça va donner, la télédiffusion des matchs de la MLS. Ça aussi, ça s'en vient d'ici un an. Donc, très hâte de voir si ça va se concrétiser pour eux aussi. De toute façon, on aura la chance de s'en parler à plusieurs reprises. Merci beaucoup, Ray Lalonde.
Salut, Jérémy. Bon samedi.
Bon week-end. Salut, toi aussi. On s'arrête le temps d'une courte pause. Autour de ceci, il y aura le bulletin de nouvelles et on va s'entretenir ensuite de ça avec Maxime Lapierre. On va revenir sur la victoire du Canadien hier, sur le match de ce soir, mais aussi d'autres sujets ailleurs dans la Ligue nationale.